Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Voilà, nous continuons nos entretiens et nous allons y mettre malheureusement fin, puisque c'est la dernière émission qui concerne l'enseignement, puisque vous êtes un spécialiste de l'enseignement. Ce terme d'enseignement, éducation, j'aurais tendance presque à mêler les deux choses. Sujet, bon, éminemment sensible au vu des résultats donc présentés par le rapport PISA de l'OCDE. Rapport qui n'est pas catastrophique non plus, mais qui n'est pas très bon. Alors, je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas suivi les premières émissions des semaines précédentes, que Patrick Coste a été cadre du ministère, professeur de philosophie, proviseur, conseiller technique du rectorat, et dans des quartiers sensibles, vous étiez également
conseiller principal d'éducation
dans un secteur sensible. Alors, également, l'auteur d'un ouvrage récemment édité, un ouvrage très dense intitulé « L'éducation face à l'impossible » paru aux éditions Delga. Et voilà, alors maintenant nous en arrivons aux suggestions. Et je dois vous dire que ma page est vide, totalement vide. Et je vais évidemment de temps en temps, peut-être que je vous poserai des questions. Mais Patrikos, je vous laisse vraiment la mainmise tout à fait sur ces suggestions. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que décideur?
Alors, avant toute chose, je voudrais poser une question de méthode. Hein. On a les solutions que l'on mérite en fonction des questions qu'on est en capacité de se poser. Et je le dis parce qu'il y a en ce moment, et depuis presque 50 ans, un certain nombre de réponses qui sont données par ce qu'on pourrait appeler le réformisme, qui est d'ailleurs accéléré dans notre système, qui sont des réponses dont on a l'impression qu'elles ne répondent pas aux problèmes réels tels qu'ils se posent effectivement. Donc il y a un effet d'écran par rapport aux problèmes concernant les réponses qui sont apportées. Vous l'avez dit, Monique, les résultats ne s'améliorent pas. Les résultats sont plutôt en baisse. Or, il y a eu des réformes considérables sur le plan de la pédagogie. On est passé, par exemple, les auditeurs, c'est important qu'ils en soient conscients, d'une transmission qui était une transmission de type humaniste, c'est-à-dire au service de l'homme, en quelque sorte. Hein, et on est passé à une transmission qui était fondée sur les compétences. Les finalités des compétences, elles ont été définies par les ministres de l'économie en Europe pour des questions de concurrence et d'employabilité. Donc, ce sont des réformes sur la place du savoir par rapport au monde économique qui modifient considérablement le rapport à la pédagogie. Or, malgré cela, malgré ces transformations de la pédagogie, les résultats ne s'améliorent pas, tout au contraire. Voilà. Donc, il faut, quand on veut faire des suggestions, donc repartir des problèmes et de la définition des problèmes. C'est sur les problèmes bien posés qu'on est susceptible d'avoir les bonnes réponses. Alors, on l'a dit dans des émissions antérieures, il y a une évolution de l'élève, de ce qu'on appelle dans notre jargon l'apprenant. C'est-à-dire qu'il fut une époque où on avait un apprenant respectueux de deux dimensions, qui était celle de l'autorité du maître et de celle de la culture. On s'élevait à travers le maître pour une culture qui faisait grandir. Or aujourd'hui, on a un apprenant dont une des finalités est le développement personnel, l'épanouissement de soi, qui devient de plus en plus égocentré et qui donc est fermé à la relation de transfert vis-à-vis de l'autorité, d'une part, mais aussi à ce que peut représenter l'élévation que l'on peut avoir vis-à-vis de la culture. Bon. Donc, par conséquent, il y a quelque chose qui s'est fermé du côté de l'apprenant, qui s'est bouché.
L'enseignant n'est pas en rivalité avec tous les réseaux sociaux, tout ce qui est écran?
Alors, c'est un des facteurs, justement, de fermeture. Mmh. C'est-à-dire que les captations par les écrans, les captations par la consommation, de manière générale, ne permet pas de s'ouvrir à une dimension du grand dehors. Pour que l'élève s'ouvre vis-à-vis de la culture, il faut qu'il ait un dehors, en quelque sorte. Oui. Or, il est saturé d'un certain nombre de modalités de consommation. Ça, c'est un problème. Et c'est un problème de l'évolution de l'apprenant. Il est central. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il faut avoir là des réponses presque de bon sens, des réponses fonctionnelles. Ça signifie que dans les classes, et c'est la première mesure qui est une réponse alternative, on ne peut plus enseigner devant 30 élèves. C'est un désordre, 30 élèves, parce qu'ils sont des singularités, un peu égocentrées, et donc il faut arriver à resserrer, dans une relation de proximité, la relation du maître à l'élève. Et c'est dans cette proximité, finalement, entre un qui sait et qui ne sait pas, qu'il y a, il faut quand même le dire, un rapport de force qui se reconstitue, qui se crée. Et donc, dans cette passe d'armes, en quelque sorte, entre le savoir et l'ignorant, dans la proximité, il y a quelque chose qui peut, et je vais employer un mot grave, qui peut se réparer de la perte d'autorité et du rapport du transfert à la culture. Hein. Alors, il y a un pédagogue célèbre qui a développé ce concept-là, qui est Vygotsky, qui développe ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Voilà. Donc ça, c'est une première mesure. Et elle est tout à fait essentielle en termes d'alternative par rapport... Nous avons les effectifs, ça a été dit dans une émission antérieure, les plus importants d'Europe. Hein. Donc c'est tout à fait paradoxal par rapport à cette évolution des apprenants. Deuxième problème. On l'a dit dans des émissions antérieures, la France provoque... les résultats les plus inégaux d'Europe, voire sur certains plans, du monde. On a juste le Chili derrière nous, dans la queue du peloton, en quelque sorte, sur la question des écarts. Cette question des écarts, elle est considérable, parce qu'une république doit constituer une communauté qui comporte une certaine unité. Les écarts et l'unité, ça ne va pas ensemble. Pour faire du commun. Hein.
Et la fraternité encore moins.
Et la fraternité, à partir du moment où on est dans des formes de rivalité, de concurrence, on n'est pas sur l'option de la fraternité. Hein. Donc tout ça, ensuite, dans la société, occasionne de véritables divisions symboliques qui sont importantes dans la structuration de la société. C'est un problème. Et il faut le poser. Bon. Et là, sur le plan de la pédagogie, si vous voulez, on en a guère parlé, mais un des horizons français, c'est l'académisme et une certaine excellence, où on tire vers le haut, vers une culture des beaux esprits. Bon. Or, si on est dans une pédagogie de la proximité, dont je fais l'hypothèse qu'elle est réparatrice par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, il doit y avoir un respect entre les langues quotidiennes, c'est-à-dire la langue que l'on porte avec sa culture, et puis le pas que l'on peut faire par rapport à une culture qui est une culture enrichie. Voilà. Mais il faut que ça se passe dans un intervalle entre le respect de la langue quotidienne et le pas qui peut être fait.
Une parenthèse, excusez-moi Patrick, je vous interromps. Par exemple, inclure des livres, des ouvrages récents dans la liste des livres pour le passage du bac, par exemple, non?
Alors, quoi qu'il en soit, ça pose la question, effectivement, des choix d'auteur.
Des choix d'auteur, ça, c'est ce que...
C'est vrai.
Oui.
Je donne juste un témoignage. On a prétendu mettre Rabelais au baccalauréat de français en première. Et il y avait quatre auteurs. Les élèves qui avaient le choix, par définition, écartaient Rabelais. Oui. Bon, c'est un fait de société, ça. Voilà. Je vais vous donner juste, par rapport à votre question, une illustration littéraire. Il y a quelqu'un qui m'intéresse beaucoup dans la littérature aujourd'hui, qui a eu, figurez-vous, le prix Nobel, et qui est Annie Ernaux. Et Annie Ernaux est quelqu'un qui, dans sa littérature, si vous voulez, s'est mis dans une situation où, elle le dit dans son discours à Stockholm, où il s'agit de ne pas trahir ses origines. Et donc, par conséquent, il y a dans la pédagogie, si vous voulez, une question qui a à voir entre le rapport de l'académisme avec les langues d'origine. Et c'est un intervalle qui est un intervalle, si vous voulez, à définir dans la pédagogie, sur lesquels les phénomènes d'académisme, et de, c'est du Bourdieu, oui, et d'excellence, ont créé des conditions qui font qu'il y a des élèves qui sont à la traîne et en situation d'échec.
Alors, une petite parenthèse, parce qu'Annie Ernaux est venue à mon micro.
Ah, ben c'est bien.
J'ai eu cette chance. Elle est charmante. Ah, mais ben, en revanche, ce qui m'a choquée, c'est quand elle a dit, elle a répété plusieurs fois, j'ai vengé ma race. Et je me suis dit, mais quelle race? De quelle race parle-t-elle? Elle était d'un milieu de commerçants, pas forcément très pauvre. Moi, j'ai connu dans ma famille des personnes bien plus pauvres qu'elle. Ça m'a outré. Non, c'était un milieu, bon, je crois que les parents avaient
cafetier,
épicerie. Bon, grâce à l'école nationale, elle a franchi des étapes, et mais, en travaillant certainement et en étant douée. Mais vous voyez, ça m'a déçue qu'elle n'ait pas parlé de l'éducation nationale, de ce qu'elle avait appris, et de là où elle est arrivée quand même.
Alors, le problème est le suivant, c'est qu'à partir du moment où on a créé des conditions d'inégalité, il y a des effets de ségrégation. Mmh. Bon, donc c'est un problème auquel il faut répondre.
Parce que c'est vrai qu'elle le ressentait.
Bon, voilà. Oui. Mais si on met l'accent et le poids du sens du côté du mérite, on est inévitablement dans des effets de concurrence et de compétition. Et il faut arriver à articuler le mérite et cette proximité aux langues quotidiennes. Et c'est des questions de bonne mesure et de proportion dans les écarts.
On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais Yannick est intraitable. Hein, voilà. C'est notre technicien de choc. Et nous allons nous quitter. Merci, Patrikos, de nous avoir consacré autant de temps. Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, j'en suis sûr. On a encore beaucoup de choses à dire.
Non, j'ai encore des choses à dire, oui.
Un grand merci, en tout cas.
Merci, Monique, de ces interviews.